Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
19h sur Europe 1.
Ils étaient 5 et il n'en reste plus qu'une exactement. Valérie Pécresse est la candidate de LR pour la prochaine présidentielle. La présidente de la région Île-de-France, largement favorite, a battu Éric Ciotti.
Les hausses de salaire du Ségur de la Santé n'ont pas éteint les revendications. Des milliers de personnes ont manifesté à Paris cet après-midi pour défendre l'hôpital public alors que la France fait face à la 5e vague du Covid.
La 35e édition du Téléthon, la recherche a besoin de vous pour progresser car vos dons ont des effets concrets sur les malades qui voient leur vie s'améliorer.
C'est la fête du foot ce soir à Lens. Les 100 et or, 5e au classement, accueillent le leader de la Ligue 1, le PSG et toutes ses stars. La tendance météo, Valérie Darmon.
Bien Pierre, des chutes de neige encore marquées en montagne, des 700 mètres en moyenne, des giboulées en plaine, un refroidissement général avec des températures 2 à 3 degrés sous les moyennes de saison. Un vent de nord sensible qui accentue en plus la sensation de froid humide.
Merci Valérie. Météo complète en fin de journal.
Europe 1.
Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, mes chers amis. La droite républicaine est de retour. La droite des convictions, la droite des solutions.
La candidate LR pour la présidentielle est donc une femme, c'est Valérie Pécresse qui a été désignée par les adhérents à l'issue du congrès du parti.
Valérie Pécresse est la première femme à représenter la droite dans cette élection. Elle a remporté 61% des voix contre 39% pour Éric Ciotti, l'autre finaliste. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez au siège des Républicains en début d'après-midi lors de cette annonce et c'était déjà une ambiance de campagne présidentielle.
Oui, avec énormément de journalistes ainsi que la plupart des cadres du parti, venue donc assister à la victoire de Valérie Pécresse. Veste de tailleur rouge sur les épaules, elle contraste au milieu de ses désormais ex-concurrents en costume cravate sombre et prononce un discours d'une dizaine de minutes dans lequel elle adresse un mot à chacun des autres candidats au Congrès, comme pour mieux souligner qu'elle représentera toutes les sensibilités des Républicains dans cette campagne. Un discours également pour marquer sa différence avec le président de la République et répondre à ceux qui l'accusent d'être Macron compatible. Il n'a qu'une seule obsession, c'est plaire. Moi, je n'ai qu'une seule passion, c'est faire. Voilà pour la petite punchline. Enfin, la candidate en appelle aux électeurs tentés par Éric Zemmour ou Marine Le Pen, qualifiés de marchands de peur. Nul besoin d'être extrémiste pour être offensif, dit-elle. Valérie Pécresse est donc lancée dans la course à l'Élysée.
Ce que je vous propose, c'est une belle et une immense aventure. Nous allons rendre à notre pays son unité, sa dignité et sa fierté. Vive la République et vive la France !
Valérie Pécresse qui ne va pas perdre de temps dans cette course à l'Élysée. Son premier déplacement de campagne, c'est déjà lundi.
Oui, déplacement symbolique puisque ce sera dans le village d'Éric Ciotti à Saint-Martin-Vésubie dans les Alpes-Maritimes. Éric Ciotti qui a tout de même recueilli 39% des voix et dont la ligne très à droite devrait peser dans la campagne. Valérie Pécresse ira également jeudi en Savoie chez Michel Barnier, puis vendredi dans les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand. Semaine chargée donc, même si le grand meeting prévu samedi prochain, porte de Versailles, est annulé en raison de la situation sanitaire jugée trop instable.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Et de Varsovie en Pologne où elle est en déplacement, Marine Le Pen a réagi à cette désignation.
La candidate du RN raille la candidature de Valérie Pécresse.
Je suis malheureuse pour les électeurs LR. Car en réalité, Valérie Pécresse est peut-être la plus macroniste de toutes les candidates qui étaient présentes dans cette compétition interne à LR. Celle qui a en même temps quasiment exactement le même profil qu'Emmanuel Macron. Donc c'est triste pour les électeurs LR qui ont le sentiment de ne jamais réussir à sortir de figures qui sont ultralibérales, qui parlent fort pendant les élections, mais qui en réalité, quand ils sont en situation, ont démontré leur incapacité à avoir le courage de prendre des décisions de rupture au bénéfice des Français.
Marine Le Pen qui appelle les électeurs LR déçus par l'issue du vote à la rejoindre.
Nouvelle journée de mobilisation pour la défense de l'hôpital public. De nombreux rassemblements ont eu lieu aujourd'hui en France.
Plusieurs mesures ont été prises l'année dernière pour améliorer la situation dans les hôpitaux, en première ligne dans la pandémie, comme des revalorisations autour de 200 euros pour les soignants. Des soignants qui dénoncent encore leurs conditions de travail et de soins à Paris. Ils s'étaient donné rendez-vous près du ministère de la Santé. Marion Gauthier a suivi le cortège pour Europe 1.
On est tous là, de Paris, de Provence.
Une foule de blouses et d'imperméables bariolés, du personnel médical et paramédical, des patients, des banderoles de syndicats qui déclinent un même sentiment d'abandon.
Faute de lit, il faut faire des sorties, donc on fait des sorties prématurées. Et malheureusement, les patients, il y en a qui s'en sortent pas. C'est de plus en plus.
Ça devient criminel. Sur le CHU de Rouen, on est à plus d'une centaine de lits qui ont disparu.
De colère portée notamment par les hôpitaux de Mayenne. Ils ont appelé au rassemblement, ils mènent le cortège. Chez eux, des urgences sont fermées la nuit, d'autres services sont menacés par manque de médecins.
Je ne me retrouve plus dans mon métier, je ne me retrouve plus. On n'a plus le temps de prendre soin des patients et personnellement, je n'arrive plus à travailler comme ça. Je commence un bilan de reconversion l'année prochaine.
C'est un gâchis énorme, ça me fout la nausée.
Le docteur Arnaud Chiche a créé le collectif Santé en danger.
Les soignants, quand ils rentrent chez eux, ils sont hantés par peut-être qu'ils ont oublié de faire ou ce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire. Ils n'ont pas signé pour ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est travailler et garantir la sécurité des soins aux patients. Et aujourd'hui, on ne la garantit plus.
Quelques soignants ont été reçus par un conseiller technique du ministre de la Santé. Ils réclamaient un plan Marshall de la Santé, mais sont restés sans réponse. Avant de se disperser, ils ont appelé à poursuivre la mobilisation.
Marion Gauthier, la situation sanitaire continue de se dégrader en France. Près de 50 000 nouveaux cas de contamination Covid-19 détectés ces dernières 24 heures. La barre des 2 000 patients en réanimation a été franchie. De nouvelles mesures de restriction pourraient être décidées. Un conseil de défense sanitaire se tiendra lundi. Et côté vaccination, Olivier Véran, le ministre de la Santé, indique ce soir qu'en une semaine, 10 millions de Français ont reçu leur dose de rappel.
Et c'est dans ce contexte, Sophie, contexte de circulation active du Covid et de l'apparition du variant Omicron, que la plupart des stations de ski ont rouvert aujourd'hui.
Et comme le taux d'incidence nationale est à 350 cas pour 100 000 habitants, loin du seuil de 200 cas, le pass sanitaire est désormais obligatoire pour les remontées mécaniques. L'année dernière, la saison s'était effectuée sans ski. Alors avec l'arrivée de cette cinquième vague, les stations se préparent, Carole Ferry.
La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de la neige ce week-end sur tous les massifs. Les réservations sont en moyenne équivalentes à celles de la même période en 2019. Le taux d'occupation atteint 80% aux Aurès, à la Rosière ou à Serre-Chevalier la semaine du jour de l'an. Une semaine qui affiche même quasiment complet à l'Alpe d'Huez. Depuis le début de la cinquième vague, il y a toutefois un peu plus d'attentisme dans les réservations, mais très peu d'annulations. Là où c'est plus compliqué, c'est pour les stations qui accueillent beaucoup de touristes étrangers. L'inquiétude là est palpable, selon le directeur de France Montagne, Jean-Marc Silva.
Du côté de la clientèle internationale, il y a la contrainte du déplacement et des accès entre les pays. Les choses évoluent un peu chaque jour. Ce qui les rassure, c'est notre bon enneigement, c'est notre ouverture, même précoce. Mais voilà, il y a ces contraintes de circulation entre les pays qui est importante. Donc nous tenons informer notre clientèle quasiment au jour le jour.
Et notez bien qu'à partir de ce week-end, le pass sanitaire est obligatoire aux remontées mécaniques.
Carole Ferry.
Et pendant ce temps, la suite de la visite d'Emmanuel Macron dans les pays du Golfe.
Le président a rencontré aujourd'hui à Jeddah le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman. Ensemble, ils ont appelé le premier ministre libanais afin de tenter de régler la crise entre Beyrouth et Riyad. En marge de cette visite, de nouveaux contrats après les rafales. Airbus va fournir 26 hélicoptères civils à une société saoudienne et Veolia remporte un contrat de gestion des services d'eau potable à Riyad.
19h08. C'est un numéro à retenir ce week-end, le 36-37.
Pour faire avancer la recherche et lutter contre les myopathies et les maladies rares, c'est la 35e édition du Téléthon, parrainée cette année par le rappeur Soprano. L'année dernière, 77 millions d'euros avaient été récoltés. Des dons qui financent les travaux des chercheurs et commencent à changer concrètement la vie des malades, Afsaneh Sabouy.
Oui, cette année, plus que jamais, les résultats de la recherche sont visibles sur le plateau du Téléthon. Ils s'appellent Hyacinthe, Augustin ou Elisa et comme tous les enfants de 3 ans, ils ont fait leur rentrée à l'école maternelle cette année grâce à une thérapie génique de leur amyotrophie spinale, une maladie dégénérative de la moelle épinière qui ne leur laissait jusqu'ici que 2 ans d'espérance de vie. Un essai clinique a bénéficié à une quarantaine d'enfants en France. Pour Serge Braun, directeur scientifique de l'AFM Téléthon, c'est la concrétisation d'une révolution médicale.
Sur les 17 médicaments de thérapie génique qui sont reconnus en Europe et aux États-Unis. Il y en a 5 qui sont issus directement de recherches menées grâce au Téléthon et il y en a 7 autres qui utilisent des techniques qui avaient été développées pour les maladies rares et qui sont en train d'être appliquées pour des traitements de cancer. C'est une révolution médicale qui est en marche, pas seulement pour les maladies rares, mais aussi pour des maladies dites fréquentes.
Autre exemple, les greffes de rétine reconstituées à partir de cellules souches qui sont utilisées dans la maladie rare qu'on appelle la rétinite pigmentaire vont aider à traiter aussi la DMLA, cette maladie du vieillissement de la rétine qui touche une personne âgée sur trois.
Afsane Sabouy, pour un don, il faut donc retenir un seul numéro, le 36-37, ou bien sur téléthon.fr à 19h. 39 961 733 euros avaient déjà été récoltés.
Dans trois semaines, c'est Noël, et si vous hésitez, on vous propose quelques idées cadeaux.
Oui, notamment si vous souhaitez offrir un livre, Nicolas Carreau a quelques suggestions.
Cette année, la collection Quarto chez Gallimard, qui compile les œuvres de romanciers cultes dans un grand volume, nous fait un joli cadeau. L'édition des nouvelles de Roald Dahl. On connaît Charlie et la chocolaterie et Sacrée sorcière et autres aventures plutôt pour les enfants. Mais Roald Dahl écrivait aussi des textes pour adultes et notamment un roman Mon oncle Oswald et des nouvelles méconnues et géniales, toutes rassemblées dans ce livre de 1500 pages. Parmi les romans contemporains de cette rentrée, un conseil offrait le cercueil de Job de Lance Weller chez Gallmeister, magnifique fresque intense en pleine guerre de sécession, la fuite et la rédemption d'une esclave et d'un soldat confédéré, vous ne lâcherez pas jusqu'à la fin, 500 pages plus loin. Et puis, une bande dessinée peut-être, un nouveau Blake et Mortimer est sorti récemment, Le Dernier Espadon dont le scénario est signé Jean Van Hamme, le créateur de 13 et l'Argo Winch.
Nicolas Carreau.
Nicolas Carreau, qui présente demain dimanche à 14h La Voix est libre sur Europe 1. On passe au sport. Le sport, le foot et la 17e journée de Ligue 1.
Et Marseille s'incline au Vélodrome face à Brest. 2-1, Stéphane Burgat.
Oui, cruelle hein, désillusion pour les Olympiens qui a pensé avoir fait le plus dur avec la très bonne prestation ce soir de Gerson, buteur après un 1-2 avec Dimitri Payet, le Brésilien recru la plus chère de l'été, donne enfin la pleine mesure de son talent, mais ça ne va pas suffire puisque en deuxième période, Brest va revenir au score dans un premier temps sur pénalty transformé par Romain Fèvre et puis ensuite Franck Honora pour les contres va donner la victoire finale au Brestois, 2-1. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, 74% de possession de balle pour les Marseillais, mais seulement 4 tirs cadrés. Manque de réalisme assez criant pour l'OM. Bravo à Brest en tout cas. 6e victoire de rang, 2 mois sans défaite pour les hommes de Michel Derzakarian qui ont déjà balayé Monaco, Lens et donc Marseille. Résultat, les Brestois montent à la 6e place au classement de son côté. L'OM reste 2e mais pourrait bien glisser du podium à l'issue de ce week-end.
Stéphane Burgat à Marseille pour Europe 1. Autre rencontre de cette journée, Lille 3 qui a débuté il y a un petit peu plus de 10 minutes et c'est 3 qui mènent pour l'instant 1-0.
Et puis à 21h, Lens accueille le PSG champion d'automne.
Et à moins de 2h du coup d'envoi, l'ambiance monte chez les 100 et or car ce soir à Lens, la venue du PSG et de ses stars, c'est l'occasion d'une grande fête populaire, Cyril de la Morinerie.
Oui, je me trouve à l'entrée du stade devant la mythique baraque à frites sans sas. Et les supporters se pressent pour avoir un cornet bien garni de frites chaudes, prendre des forces avant d'entrer dans le chaudron lensois. 40 000 spectateurs ce soir, stade à huis clos. Accueillir les stars du PSG, c'est toujours une joie. Et malgré le fossé qui sépare les deux formations, le cinquième face au leader parisien, Muriel et Patrick, deux fans habillés de la tête aux pieds en son et or, y croient.
Elle est énorme l'attente, oui. Vu comment que ça se bouscule pour avoir des places, c'est toujours une affiche qu'on attend. Le Paris chez nous, il y a longtemps qu'on ne l'a pas vu. C'est ce qu'on attend aussi, c'est de voir Messi.
C'est tous des grands noms. Hein. Nous, avec l'envie, on peut les battre. Hein. Bah, j'ai mis 2-1. Hein. Mais j'espère qu'on va gagner.
Voilà, ce sera sans doute sans Kylian Mbappé qui devrait rester sur le banc, tout du moins au début de cette rencontre. Il ressent une légère fatigue. En tout cas, le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, qui m'avait accueilli hier dans son bureau, me disait « Le PSG, c'est de l'extra bonus ». Et puis l'entraîneur, Franck Hesse, qui a également répondu aux questions d'Europe 1, reconnaît que la tâche est immense.
Il faut que les planètes soient alignées, il faut faire un match exceptionnel. Mais en tout cas, on va vendre chèrement notre peau.
Oui, il y a des frites pour tout le monde, j'entendais Pierre parler.
C'est la grande question.
C'est la grande question. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, justement, puisque vous aimez les frites, c'est la Sainte-Barbe. Et là, on va en manger encore plus parce que c'est la Sainte Patronne des mineurs.
Des frites. Voilà. Non, pas des frites.
Mais on va se.
Je suis une obsession sur la frite depuis qu'on en avait parlé de cette baraque à frites, mon cher Cyril.
Je peux vous en prendre une, mais elle sera froide.
Oui, ça sera pas très bon réchauffé.
Cyril de la Morinerie. Bonne soirée Cyril de la Morinerie à Lens pour Europe 1.
Et Lens PSG, c'est bien sûr à suivre dans Europe 1 Sport, mon cher Lionel.
Oui, absolument, avec du rap de frites pour tout le monde ce soir dans notre émission. Nos experts, nos commentateurs, Lens Paris Saint-Germain, le coup d'envoi à 21h, on va suivre cette rencontre. En effet, Kylian Mbappé sur le banc, mais on évoquera avec nos experts, et notamment Isabella Palieri, spécialiste du foot sud-américain, le cas de Lionel Messi. On évoquera Neymar qui est blessé, vous le savez, mais Lionel Messi, Ballon d'Or, encore polémique. Hein. Aujourd'hui, beaucoup contestent cette attribution. Il n'a marqué qu'un seul but avec le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Et donc, on attend beaucoup plus de Lionel Messi. On en débattra évidemment aussi avec nos invités ce soir. Petite question aussi que je vous pose. Peut-être que vous ignorez, Pierre, pourquoi Lionel Messi porte le numéro 30 ?
Pourquoi est-ce qu'il porte le numéro 30 ?
Exactement, j'attendais cette question. Elle est très pertinente. Tout simplement parce que Neymar, qui porte le 10, lui a proposé, lorsqu'il est arrivé, de porter ce numéro-là, mais Messi a refusé en disant non, Neymar est là depuis plus longtemps, il garde le numéro 10, qui est un numéro emblématique, et moi je prendrai le 30. Voilà, c'est une information que vous découvrirez en détail ce soir dans notre émission.
Ben voilà, des scoops, et...
Et des frites.
Des frites,
des frites.
Et, Europe 1 Sport, c'est bien sûr, ça commence dès 20h sur
bien
Europe 1.
Avec des frites. Merci Sophie Tussaud. Le temps, et ça ne s'améliore pas, hein, Valérie Darmon.
Sans surprise, je vous annonce donc encore des pluies et du vent. Du Grand Est à Auvergne et à Rhône-Alpes, jusque dans le sud-ouest, la journée se déroule sous un ciel couvert et des précipitations fréquentes. Sur les Pyrénées, les précipitations qui sont durables, parfois marquées, donnant de bons cumuls, avec une limite puis neige vers 800 mètres à l'ouest, 600 à l'est. Sur le relief des Vosges, du Jura, des Alpes et du Massif central, la neige qui tombe généralement à partir de 400 mètres d'altitude, mais elle peut s'abaisser à plus basse altitude encore dans le nord-est, voire en plaine. Du nord de la Bretagne et de la Normandie jusqu'aux Hauts-de-France, dès les premières heures du jour, les nuages et les averses s'imposent avec quelques flocons possibles dans les terres. L'après-midi, ce temps faiblement pluvieux s'étend vers la région parisienne et vers le centre. Du sud de la Bretagne jusqu'au Poitou-Charentes, les éclaircies sont de plus en plus belles en revanche, pour toucher l'après-midi en plus les plaines d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Même chose près de la Méditerranée. Les minimales aussi entre moins 2 et 3 sur la moitié est, 1 à 6 ailleurs. Les maximales repartent à la baisse, avec 1 à 6 sur la moitié est, 6 à 11 ailleurs.
Merci Valérie Darmon.